And today, the United States of America is opening its embassy right here in Jerusalem. Thank you. Thank you, President Trump, for having the courage to keep your promises.
Benjamin Netanyahu, le premier ministre d'Israël qu'on vient d'entendre, évidemment, la nouvelle ambassade inaugurée. Donald Trump avait délégué son gendre, Jared Kushner, et sa fille, Ivanka, pour représenter les États-Unis. Évidemment, le contrepoids à tout ça, Raphaël, c'est une explosion de violence. On dit que ça a été la journée la plus sanglante dans toute l'histoire des relations israélo-palestiniennes. On parle de 52 morts du côté des Palestiniens dans la bande de Gaza et 2500 blessés.
Et c'est pas tout à fait surprenant. Dès que la décision avait été annoncée l'an dernier, on s'attendait à ce que ça soit explosif. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on s'attendait à la base à ce que ça prenne du temps avant que l'ambassade déménage. Rappelle-toi, Paul, en décembre, quand on s'en était parlé, on s'était dit que ça pourrait prendre des années. En fait, que l'ambassade potentiellement ne serait jamais déménagé parce que le déménagement s'effectuerait après la présidence de Donald Trump parce que ça prendrait tellement de temps d'un point de vue logistique, ne serait-ce qu'au niveau de la sécurité et justement au niveau des efforts pour calmer les tensions qui allaient être inévitables, que ça se ferait sur une période très longue. Or, on l'a fait en moins de 6 mois. Donc, écoute, il va y avoir des détracteurs par rapport à ça de façon inévitable et de façon compréhensible. Le pendant, par contre, à ça, c'est qu'on entend souvent des critiques de Donald Trump dire que l'état de droit est menacé aux États-Unis depuis l'assermentation du président Trump. La réalité, c'est que le déménagement de l'ambassade américaine à Jérusalem, c'est une loi aux États-Unis. C'est une loi qui a été passée par le Congrès en 1995 et en fait que les prédécesseurs de Donald Trump n'ont jamais appliqué. Le président des États-Unis a comme responsabilité première d'appliquer la loi. Bill Clinton, George W. Bush, Barack Obama n'avait pas appliqué la loi.
Ils ne l'ont pas fait
alors que c'était leur mandat constitutionnel. Oui. Donc, vous pouvez être en désaccord avec la décision de déplacer l'ambassade. Mais la réalité, c'est que la décision à la base vient du Congrès américain dans les années 90. La décision, si on peut la qualifier ainsi, de Donald Trump, en fait, ça a été de faire appliquer la loi. Encore une fois, où c'est peut-être beaucoup plus discutable, c'est le délai qui a été qu'on a utilisé pour faire ce déménagement, qui évidemment est extrêmement émotif des deux côtés.
Bien sûr, et ça va le demeurer en tout cas très certainement pour plusieurs jours encore. La Cour suprême des États-Unis a rendu une décision importante. Ça concerne le pari sportif, le gambling, quoi. Et ça vient uniformiser là, les capacités des gens de pouvoir parier sur des événements sportifs dans la plupart des États.
En fait, ce que ça vient uniformiser, c'est le pouvoir des États de légiférer en la matière. Parce que dans un cas fascinant de la Cour suprême, une décision de 6-3, tu as la majorité des 5 juges conservateurs à la Cour suprême américaine, incluant le juge nommé par le président Trump, ainsi qu'une juge plus à gauche nommée par Barack Obama, donc ça fait 6 voix, qui ont voté pour invalider une loi de 92 qui avait été passée par le Congrès démocrate de l'époque et signée par le président républicain de l'époque, le président Bush père. Ce que la loi de 92 stipulait, c'est que les États n'avaient pas le droit de permettre le pari sportif. Ça n'interdisait pas de façon explicite le pari sportif, mais ça contraignait les législateurs des États en disant « Vous ne pouvez pas légiférer en la matière, on vous empêche de légaliser. » Alors qu'il y avait un État en particulier qui avait une espèce d'exception spéciale, le Nevada.
Évidemment,
tu sais comme moi,
ouais.
Qu'est-ce qui se trouve au Nevada?
Ouais.
Las Vegas.
Bien sûr.
Et donc, la décision d'aujourd'hui vient invalider ça parce que ce que le plus haut tribunal aux États-Unis dit, c'est que le Congrès ne peut pas forcer la main aux législateurs. Donc, si vous êtes le Delaware ou vous êtes le New Jersey, d'ailleurs, c'est le New Jersey qui avait intenté la poursuite qui ultimement s'est ramassée à la Cour suprême aujourd'hui. Si vous êtes le Delaware, le New Jersey, la Floride, la Pennsylvanie et que vous voulez légaliser le pari sportif, le Congrès n'a pas le droit de vous en empêcher.
C'est important, ça.
C'est très important parce que les implications sont vastes. D'abord et avant tout, au niveau de cette industrie qui risque d'exploser du pari sportif, là, ça ne sera pas justement limité à un État, à une grosse ville, Las Vegas. Ça pourrait se retrouver aux quatre coins du pays.
Ouais.
Et également, justement, pour l'État en question qui risque d'être le plus sévèrement touché, le Nevada, les conséquences pourraient être extrêmement douloureuses parce qu'on perd justement une espèce de pôle d'attraction.
Les gens
spéciale.
Ne seront pas obligés de passer par Las Vegas pour faire leur pari sportif.
Exactement. Une fois que tout ça s'est dit, rappelons rapidement qu'il ne s'agit pas de légalisation nationale. Ce qu'on fait aujourd'hui, c'est qu'on dit, si vous voulez légaliser à la pièce, vous pouvez le faire. Encore une fois, on pourrait se ramasser dans une situation dans quelques années où certains États auraient légalisé, d'autres garderait le pari sportif interdit.
Mais il y a, c'est avantageux pour les États où souvent on veut organiser en parallèle des paris sportifs des montées de financement.
Oui.
Des financements pour les universités, les collèges, les infrastructures. Alors, à ce moment-là, ça devient attrayant pour les États d'ouvrir le pari sportif.
Absolument. Absolument.
Oui, aux grandes dames d'ailleurs des commissaires comme Bettman ou.
Oui. Parce que, d'un côté, dans cette poursuite-là, tu avais des États qui voulaient légaliser le pari sportif et leurs opposants, en fait, au pluriel en cours, c'était qui? C'était justement...
Les ligues.
Les ligues majeures. La Ligue nationale de hockey, les ligues majeures de baseball, la NFL et la NBA et même les associations de sport universitaires américains qui étaient tous contre et qui ont perdu aujourd'hui, encore une fois, devant la Cour suprême.
Et finalement, on comprend peut-être un peu mieux aujourd'hui pourquoi tant de fuites émane de la Maison-Blanche.
Un article fascinant, en fait presque humoristique, qui est sorti ce matin, qui a été écrit par un journaliste qui suit la Maison-Blanche depuis le tout début de l'administration Trump et qui a plusieurs sources de très grande confiance qui font des fuites sur une base très quotidienne. Donc, le reporter en question écrit depuis maintenant plus d'un an sur beaucoup de choses qui se passent à l'intérieur de la Maison-Blanche sans que les gens du grand public, normalement, le sache. Normalement, les gens ne devraient pas le savoir, mais le savent, suite à ces fuites-là. Et donc, il est allé voir les gens, justement, à la Maison-Blanche qui font des fuites et leur ont demandé pourquoi. Pourquoi est-ce que vous faites des fuites comme ça? Et ce qui est fascinant, c'est qu'on apprend qu'à peu près tout le monde, a une raison différente. Donc, il y en a qui font des fuites par vendetta personnelle. D'autres qui veulent s'assurer, de façon peut-être un petit peu plus noble, que le grand public sache vraiment ce qui s'est passé à l'interne. Et d'autres qui, carrément, veulent essayer d'embarrasser le président Trump. Là, on parle de gens qui travaillent pour lui. Donc, ça donne une petite idée de la dynamique que tu as à l'intérieur de la Maison-Blanche. Une fois que tout ça s'est dit, parce que cet article-là, justement, dès qu'il a été publié ce matin, a fait beaucoup réagir, Donald Trump a même réagi lui-même sur Twitter. Je te lis son tweet. « Les soi-disant fuites venant de la Maison-Blanche sont une exagération massive provenant des médias fake news pour nous faire mal paraître. Cela étant dit, ces sources sont des traîtres et des peureux et nous allons les démasquer. » Point d'exclamation. Fin du tweet. Réaction du journaliste. « S'il s'agit de soi-disant fuites, pourquoi avez-vous besoin de démasquer ces sources non existantes? »
Ben oui, non existantes,
ça
évidemment.
Ça dit à peu près tout.
Oui, le président qui est parti il y a quelques minutes, à peine, on disait cela à Philippe Gasso, auprès de Mme Melania Trump. Encore une fois, je vous rappelle qu'elle a été opérée. Petite chirurgie, une chirurgie bénigne, Raphaël. Mais elle va passer la semaine quand même à l'hôpital.
Et on lui souhaite un très prompt rétablissement.
Et ce qui va l'aider dans son rétablissement, c'est que ses cotes personnelles montent d'une façon spectaculaire. Je disais ça aujourd'hui. Sa popularité atteint un niveau qu'on n'avait jamais vu auparavant.
Effectivement, Paul.
Et ça monte toujours.
C'est vrai? 60%.
Elle est beaucoup plus populaire que son mari.
Et ça, c'est classique, soit dit en passant. Les premières dames tendent presque toujours à être plus populaires que leur époux, le président. C'est particulièrement vrai dans le cas de Melania et de Donald Trump.
Merci beaucoup, Raphaël.
À demain.